Michel Bussy, Les Contes du Réveil Matin, illustré par Éric Puybarret. Corentin était un petit garçon, curieux. Tous les petits garçons sont curieux, me direz-vous. Vous avez raison, je devrais plutôt dire Corentin était un curieux petit garçon. Curieux dans le sens où il n'était pas seulement étonné, mais aussi étonnant. Différent, si vous préférez. Il possédait un secret. Un secret tellement incroyable que lorsque je vous le révélerai, vous ne me croirez pas. Et pourtant, dès le 1er mars, Corentin eut la permission de se ruer dehors. Heureusement, cette année-là, février ne comptait que 28 jours. Cet hiver-là, Corentin avait dévoré plus de contes et légendes qu'il n'était raisonnable. Il en avait fait une indigestion. Le seul remède logique aux yeux de Corentin lui sembla de devenir lui-même roi. Corentin savait qu'il était parvenu à l'âge de régner. D'ailleurs, c'est un métier qu'il faut commencer jeune. D'Arthur à Aladdin, c'est ce qu'il avait retenu de ses lectures. Il avait trop longtemps révisé la théorie, il lui fallait un endroit pour tout mettre en pratique. Il partit donc à la quête d'un royaume qu'il découvrit le jour même, qu'il conquit dans la foulée et sur lequel il parvint à régner avant la tombée de la nuit. Il s'agissait de ce trou de verdure où chantait une rivière. C'était un petit royaume, tranquille mais prospère, riche par ses pierres précieuses, jalousé pour ses fleurs rares, craint pour ses arbres géants et surtout respecté par son roi, Corentin Ier, dit le Pacifique. C'est Corentin qui avait trouvé son nom, et il en était fier. Touffes d'herbes et champignons vivaient en paix, protégées par une armée de l'air composée de quelques moineaux. Assis sur son trône, j'ai bien dit son tronc et non trône, Corentin le Pacifique régnait paresseusement, tolérant le passage sur son territoire d'un lapin ou d'un lièvre, parfois d'une biche, mais c'était plus rare, afin d'honorer son surnom et de parfaire sa légende que l'on ne manquerait pas de se compter de feuille en feuille, de printemps en printemps. Qui ose réveiller Atlas le Grand? C'est ainsi que le Grand Atlas aimait qu'on l'appelle. C'est moi, Corentin, répondit Corentin d'une voix qui n'avait plus grand-chose à voir avec celle d'un roi.
« Ah, c'est toi !» continua Atlas,
sortant petit à petit de son long sommeil.
« Ça fait un sacré moment que je ne t'ai pas vu. D'ailleurs, je ne vois presque plus personne. On me couche de force dans ce tiroir, je suis bien obligé de dormir. J'ai beau résister, penser à autre chose, à d'autres mondes. Dormir toute l'année dans un tiroir. Alors que moi, mon rêve, c'est de voyager, voir du pays, voir des pays. Tu pourrais m'aider, Corentin.
Je ne demande pas mieux, mais je n'ai pas le droit de t'emmener dehors.
Et pourquoi, je te prie?
Tu le sais bien, tu es trop fragile. Tu voudrais rentrer à la première averse.
Tu parles, j'ai voyagé avant toi, mon petit gars.
C'était faux, Corentin le savait, mais il ne voulait pas le vexer afin d'avoir le renseignement qu'il voulait.
Tiens, je ne savais pas.
Ouais, je n'ai pas la peine de faire semblant de me croire. Même si je ne suis jamais sorti de ce salon, je peux te situer au degré et au grade près Tombouctou, Katmandou ou Kourou. Alors que toi, à fond sur ton vélo, tu n'es jamais allé plus loin que la forêt.
Atlas.
Tu es bien content de venir me trouver quand tu veux voyager dans tes pensées. Ah, tu plonges dans mes pages et hop, je t'emporte. Tu pourrais me renvoyer l'appareil de temps en temps.
Corentin aurait bien été tenté de le faire, mais il n'avait vraiment pas le droit d'emporter Atlas dehors. Atlas était le plus beau livre de la maison. Un jour, peut-être, quand il ferait plus beau, quand il serait plus grand, quand il aurait davantage de courage.
Tu m'emmèneras rien qu'une fois sur ton vélo.
Atlas, je ne t'ai pas réveillé pour ça.
Tu me montreras en vrai tous ces noms que je connais par cœur.
Je te préviens, si tu ne veux pas me dire ce que je cherche, je te range tout de suite et je vais demander mon renseignement à Micheline.
C'était le surnom de la carte routière.
Micheline, tu ne ferais pas ça? Bon, ça va. Que veux-tu savoir?
Corentin décrivit son trou de verdure avec le plus de précision possible.
Tu devrais trouver ça sur ma page 117. Sans doute vers le carreau E5 ou F6, peut-être. Il y a quelques années, je t'aurais donné le nom de ton royaume de mémoire, sans même que tu m'ouvres. Mais maintenant, j'oublie presque tout. Évidemment, on me consulte si peu souvent. Si on me promenait, je pourrais me réactualiser.
Corentin ne le laissa pas finir et ouvrit Atlas à la page 117. Curieusement, le seul moyen de fermer la bouche d'un atlas et d'un livre en général, c'est de l'ouvrir. Corentin régnait déjà depuis plus de 15 jours. En bon roi qu'il était, il essayait de se rendre disponible le plus souvent possible envers ses sujets. Mais justement, ce vendredi-là, cela faisait plus de 4 jours que le monarque n'était pas revenu sur ses terres. Corentin n'avait guère de scrupules. Il ne se passait jamais rien, mais vraiment rien, dans son royaume trop tranquille. C'est avec cette idée en tête que Corentin se rendit ce vendredi dans son trou de verdure. Mais au sortir du virage qui menait à sa vallée, surprise. Immense surprise. Plus de trous de verdure, plus de petits royaumes tranquilles. Des centaines, peut-être des milliers de visiteurs s'étaient arrêtés là, s'étaient installés, semblant camper en toute quiétude. La vallée entière était jaune. Des fleurs jaunes, d'un joli jaune d'ailleurs, Corentin était forcé de le reconnaître, s'étaient appropriés le terrain. Certaines en bouquets touffus, d'autres isolées. Il régnait comme une atmosphère de fête dans cette petite vallée. Une atmosphère agréable d'ailleurs. Corentin était bien obligé de l'admettre. Corentin se ressaisit rapidement. En tant que roi, Corentin ne devait pas s'arrêter à ses sentiments futiles. Il était garant de la sécurité sur son territoire. Il choisit donc une touffe de fleurs, un peu à l'écart des autres, isolée derrière un tronc, à l'abri d'un petit monticule. Il s'assit sur ce tronc et se pencha vers les fleurs jaunes. « Bonjour, je suis le roi de la vallée des larmes. Je vous souhaite la bienvenue. Mais avant tout, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu faire ici. Comment vous êtes arrivé aussi rapidement et pourquoi vous êtes venu aussi nombreuse ?» La fleur la plus proche de Corentin lui répondit. « Pourquoi sommes-nous aussi nombreuses ? Et cette année, je trouve qu'il manque encore pas mal de monde à l'appel, sans doute à cause du froid. Mais les traînards ne devraient pas tarder à apparaître. Comment nous sommes arrivés, ma foi ? Cela fait près de 15 ans que je viens ici à la même époque, et à un ou deux jours près. Le coin est calme, il y a de la place, il n'y a pas à se plaindre. Ce que l'on est venu faire, j'en sais trop rien. Et savourer le soleil, sans doute, et le vent, en parler un peu. De toute façon, c'est comme cela depuis toujours. » Corentin resta longtemps à lui parler. Il était en fait composé de 5 fleurs. Une petite famille. La plus petite, la plus fine, mais également la plus jolie, était la fille. Curieusement, elle se prénommait Magnolia. Enfin, je dis curieusement, mais cela semble plutôt logique. Pourquoi les fleurs ne porteraient-elles pas des noms de fleurs, d'autres fleurs ? Les hommes choisissent bien leurs prénoms parmi les prénoms portés par d'autres hommes. Le plus joli brin du bouquet se prénommait donc Magnolia. Magnolia poussait juste à côté de la fleur la plus haute, son frère aîné, Mimosa. Les deux ne cessaient de se disputer. « Mimosa, c'est un nom de bébé !» lui lançait Magnolia. Mimosa ne lui répondait rien. Il était coincé, car il pensait aussi que Mimosa faisait ridicule. Amusant un peu, d'accord, au début, mais surtout ridicule à la longue. Il y a tant d'autres noms de fleurs poétiques, romantiques, épiques. Mimosa le reprochait souvent à ses parents. Ses parents poussaient juste à côté, à quelques touffes. Le père se prénommait Narcisse. Il portait lui aussi mal son prénom, puisque tout le monde s'accordait sur sa gentillesse, sa discrétion et son bon sens. Sa réputation dépassait largement le petit bouquet familial et il était l'une des fleurs les plus écoutées et respectées de la vallée. Sa femme se prénommait Azalée. Elle demeurait encore fort jolie, même si sa tige commençait à se courber. On racontait qu'elle avait longtemps été la plus belle fleur de la vallée. Ancoli, du moins, aimait le rappeler. Ancoli était le 5e brin du bouquet. Ses feuilles flétries, ses pétales dentelés, son teint plus proche de l'orange que du jaune éclatant des brins voisins, permettaient aisément à l'observateur, même humain, de deviner qu'elle était très âgée. Il s'était renseigné. Les résidents de la vallée des larmes étaient des jonquilles. Corentin se sentait fier. Il avait lu, les jonquilles étaient des fleurs extraordinaires. Elles sont les messagères du printemps, les messagères du soleil, les messagères du ciel redevenu bleu et des jours plus longs que les nuits.
Cesse de regarder ainsi, monsieur Pivoine. De quoi avons-nous l'air devant ses parents? C'est au garçon de se pencher vers toi. Une vraie jeune fille se contente d'attendre.
Attendre? Attendre quoi? Le regel? Et pourquoi moi je n'aurais pas le droit d'avoir un penchant pour lui?
Et elle tirait de toutes ses forces sur sa tige, comme pour gagner quelques millimètres sur les 3 mètres qui la séparaient de son amour.
Magnolia, ça suffit!
Tenta d'imposer Azalée.
Et d'abord,
surenchérit Mimosa, qui manquait rarement une occasion de ne pas se taire,
une jonquille ne fréquente pas un coquelicot.
Ce n'est pas un coquelicot!
Cria Magnolia.
C'est vrai, il n'est pas que rouge,
renchérit Mimosa.
Il est rouge mélangé jaune, c'est super. Tiens, on dirait la couleur de grand-mère.
Mimosa, s'écria Narcisse,
tu vas présenter immédiatement des excuses à mamie Ancolie.
Ancolie faisait alors semblant d'être sourde comme un pot de fleurs, bien sûr. Narcisse faisait semblant d'être en colère, Magnolia faisait semblant de pleurer, Mimosa faisait semblant de s'en moquer, et Azalée grondait tout le monde et consolait Magnolia en lui murmurant tige à tige que Pivoine était un bien joli brin de garçon, bien qu'il soit d'une couleur différente, mais que de cela, elle s'en moquait. Or, depuis le début de l'après-midi, un papillon tournait autour du bouquet familial.
« Un vautour !»
se lamentait Azalée.
« C'est un vautour! Mais pourquoi est-ce qu'il rôde comme ça au-dessus de nous? Il va blesser quelqu'un d'un coup d'aile! Fous le camp, sale bête! Fiche-nous la paix! Cachez-vous, les enfants !»
Elle tentait de battre des feuilles pour l'effrayer ou pour se rassurer. Comme cela ne marchait pas, elle se pelotonnait contre Narcisse qui, finalement, se réjouissait plutôt de la situation.
« C'est bizarre !» dit soudain Mimosa. « On dirait qu'il passe son temps à faire des cercles entre nous et ce cher Pivoine. »
Magnolia lança de gros yeux furieux, mais jolis quand même, à son frère. Mais cela, aucun humain, même Corentin, ne pouvait le voir.
« Ça, bébé, tu me le paieras !»
murmura Magnolia à l'intention de son frère.
« Comment ça ?» demanda Azalée. « J'espère tout de même, Magnolia, que tu ne te sers pas de ce papillon comme facteur d'amour entre toi et Pivoine. »
Se servir des insectes volants comme messagers d'amour est une pratique courante chez les jeunes plantes romantiques. Bien que cette tradition ait, dit-on, tendance à se perdre. Les temps changent, même chez les jonquilles, même dans les trous perdus. Magnolia était sans doute faite pour aimer Pivoine. En entendant ces mots, elle rougit elle aussi de façon assez exceptionnelle pour une jonquille.
« Il ne faut pas lui en vouloir !» tenta d'argumenter Narcisse. « Ah, salut ! Nous l'avons fait aussi quand nous étions jeunes. Nous l'avons tous fait. »
Avec des abeilles,
protesta Azalée.
Avec des abeilles, pas des papillons. Et je ne faisais pas trembler mes parents de toutes leurs feuilles à cause de mes histoires de cœur. C'était discret, romantique.
Un papillon.
À croire que ma fille veut que toute la vallée soit au courant.
Magnolia, tu vas me renvoyer ce monstre volant immédiatement. Le trou était redevenu désespérément vert. Les petits soleils s'étaient tous éteints. De la vallée montaient des cris, des pleurs, des hurlements par centaines, par milliers, qui semblèrent même redoubler à l'arrivée de Corentin. Il se précipita terrifié vers le petit monticule à l'abri duquel poussaient la famille de Narcisse et Azalée, d'Ancolie, de Mimosa et de Magnolia. Corentin voulait croire au miracle, que le cataclysme avait épargné sa famille, rien que sa famille. Mais à l'ombre du monticule, derrière le tronc, le bouquet, comme tous les autres, avait disparu. Corentin s'allongea, s'effondra plutôt. Il ne comprenait pas. Il n'avait pas la force de chercher à comprendre. Il pleurait. Il était bien trop jeune pour être roi. Mimosa gémissait. Mimosa s'était enroulé autour d'une ronce qui pendait à proximité. Il vivait, mais ses feuilles et ses pétales étaient percés de part en part par les épines. Mimosa le fixait avec des yeux que Corentin n'avait vus que dans des films d'horreur qu'il n'avait pas le droit de regarder.
« Pourquoi ? Pourquoi ?»
se contentait de répéter Mimosa d'une voix étouffée.
« Pourquoi ? Le cataclysme ? Ce sont des humains, comme toi. Ils étaient deux. Un homme et une femme, je pense. Ils ont commencé par arracher les filles les plus jolies. Magnolia fut l'une des premières à être emportée. Et nous n'avons rien pu faire. Nous les avons regardées venir l'assassiner sans pouvoir esquisser le moindre geste. Maudite Rachine! Bien sûr, nous avons crié, hurlé. Azalée était comme folle. Mais bien sûr, ils n'ont strictement rien entendu. Il paraît que là-haut, sur le monticule, quand ils emportaient Magnolia, Pivoine est parvenu à briser ses racines et il est tombé, fauché. Je n'aurais jamais cru une jonquille capable de faire cela. Briser ses racines. Quand ils sont venus vers moi, ils n'ont pas fait attention à la ronce. Ça m'a fait mal à en crever de m'enlacer autour. Je me vidais de toute ma sève. Mais quand sa main s'est refermée sur moi, je te jure qu'il l'a retirée aussitôt en hurlant. Pourquoi ? Pourquoi ?
Que dire ? Assommé par l'énormité du crime, Corentin tenta d'excuser les siens, même un peu maladroitement.
Mimosa,
dit Corentin,
je crois que cet homme et cette femme ne savaient pas le mal qu'ils faisaient. Les couples qui se promènent en forêt sont toujours des couples d'amoureux. Ils auront fait un concours pour savoir qui pouvait cueillir le bouquet le plus gros. Ils auront voulu ensoleiller leur appartement gris. Ils auront voulu rapporter un souvenir de leur première promenade. Les humains aiment les fleurs. Quand on aime, parfois, toujours, on est aveugle au mal que l'on cause. Mimosa, ils n'ont pas agi par haine. Ils ont agi par amour.
Ils n'ont pas agi par haine. Ils ont agi par amour,
répétait mécaniquement Mimosa. Mais il ne pouvait pas comprendre. Et s'il l'avait pu, il ne l'aurait pas voulu.
Le soir tombait quand Corentin rejoignit la grande route. Juste avant le rond-point où se croisent les nationales, à l'endroit où la route s'élargit sur un parking gris, celui où s'installe en semaine, mais pas le dimanche, le marchand de pizza, à cet endroit précis. Corentin les vit. Ils étaient tous là, allongés. Ils étaient des centaines. Ils étaient des milliers de petits soleils allongés dans des caisses de bois. Ils étaient des centaines. Ils étaient des milliers de petits soleils déjà fanés, ligotés, 10 par 10. Ils étaient des centaines. Ils étaient des milliers de soleils morts, rangés par taille et par couleur. Narcisse, Azalée, Magnolia et Pivoine ne finiraient même pas leur jour ensemble. Corentin avait conscience d'avoir menti à Mimosa. Non, il n'avait pas ainsi agi par amour. Non, il n'avait pas agi ainsi par haine. Ils avaient simplement massacré, sans sentiment, sans émotion, pour de l'argent. 10 petits soleils, 2 euros.